Et il est bien 18h, tout va bien, c'est l'heure du journal de la rédaction, présenté par Anne Fauquemberg. Bonsoir Anne.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous. Double attaque au couteau en début d'après-midi à Marseille. Ce sont deux femmes qui ont été tuées par un assaillant, un homme abattu par les militaires de la force Sentinelle. Nous ferons le point avec Olivier Martoc au début de ce journal et Benoît Bouscarel nous rejoindra pour évoquer le début de l'enquête. Dans l'actualité également, quel avenir pour les relations entre Madrid et la Catalogne ? Le référendum d'autodétermination a provoqué de violents heurts entre la police et les électeurs de la région espagnole ce matin. Le vote se poursuit toutefois dans des conditions précaires jusqu'à 20h. Annabelle Grelier sera en direct, puis nous accueillerons la géographe spécialiste de l'Espagne, Barbara Loyer, pour l'analyse. La politique en France, François Bayrou, le président du Modem, évoque un rapprochement avec les centristes de l'UDI, nous l'entendrons. Et puis au sommaire de dimanche et après, Julie Gacon.
Le rachat cette semaine d'Alstom par l'allemand Siemens ou celui des chantiers navals de Saint-Nazaire par l'italien Fincantieri, la création de géants à l'échelle européenne semble être la stratégie d'Emmanuel Macron pour l'industrie française. On en parle avec nos invités dès 18h15.
Merci Julie et à tout à l'heure, donc 18h15. Deux personnes ont donc été tuées en début d'après-midi à Marseille, attaque au couteau qui s'est produite sur le parvis de la gare Saint-Charles en début d'après-midi vers 13h environ. Bonsoir Olivier Martoc.
Bonsoir.
Envoyé spécial à Marseille, a priori un seul assaillant qui a été abattu par des militaires de l'opération Sentinelle.
Oui, alors vous l'avez dit, l'attaque a eu lieu sur le parvis de la gare Saint-Charles dans le square Narvik. Il y avait beaucoup de monde vers 13h30, des voyageurs assis au soleil, attendant sur cet espace ouvert plutôt que dans la gare. L'heure du départ de leur train. Selon Dominique, une témoin qui dit avoir tout vu car elle se trouvait à une dizaine de mètres, et son témoignage que j'ai recueilli très très tôt est maintenant recoupé par les premiers éléments donnés par les policiers. L'homme d'une trentaine d'années aurait brusquement sorti un couteau de boucher, aurait poignardé par derrière et au niveau de la gorge une femme qui passait devant lui avant de s'attaquer à une seconde victime, toujours une femme, et de la poignarder à plusieurs reprises. C'est les cris de cette femme mortellement atteinte qui aurait attiré l'attention de la patrouille Sentinelle qui faisait sa ronde sur le parvis. Les militaires auraient fait feu immédiatement. Selon le témoignage de Dominique, l'assaillant, au moment de son attaque contre les deux femmes, aurait crié « Allah Akbar ». Évidemment, pour l'instant, ce n'est confirmé par personne.
On attend d'une minute à l'autre, Olivier, une déclaration du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui vient d'arriver sur place. C'est un petit peu la confusion ce soir en gare Saint-Charles.
Oui, alors ce qu'il faut dire, effectivement, Gérard Collomb et les officiels préfets de police, procureurs, le maire de Marseille, le président du conseil régional sont en ce moment dans la gare. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'évacuation s'est passée vraiment très très calmement. Tous les témoignages que l'on a eus montrent que les gens sont sortis des trains sans panique, ont évacué la gare. Et en ce moment, ils attendaient autour de la gare qui évidemment était bouclée. Il y a un mouvement qui se produit vers la gare des bus, car des bus seraient en train d'évacuer ces centaines de passagers, sans doute vers Aix, afin qu'ils puissent prendre des TGV et remonter sur Paris pour ceux qui notamment devaient remonter sur Paris.
Merci Olivier Martoc pour vos précisions. Depuis Marseille, circulation SNCF effectivement interrompue jusqu'à nouvel ordre en gare Saint-Charles, alors que les premières réactions officielles sont en train d'arriver. Colère et tristesse pour les victimes, soutien aux militaires et policiers de Sentinelle qui nous protègent, c'est ce que déclare le Premier ministre Édouard Philippe sur Twitter. La dernière attaque meurtrière en France remonte au 20 avril, à trois jours du premier tour de la présidentielle. Karim Cherfi avait tué un policier sur les Champs-Élysées. Le double homicide d'aujourd'hui intervient aussi à la veille du procès du frère de Mohamed Merah qui avait perpétré les tueries de 2012 à Toulouse et à Montauban. Bonsoir Benoît Bouscarel.
Bonsoir Anne.
En ce qui concerne les faits d'aujourd'hui, la dimension terroriste n'est pas encore totalement confirmée.
Oui, c'est l'enquête hein, bien sûr qui devra faire la lumière sur les points qui restent encore en suspens. L'assaillant dont on sait seulement pour l'instant qu'il était connu pour des faits de droit commun, ne portait pas de papier sur lui. Il n'y a pour l'heure aucune revendication et pas non plus, pour l'instant, de complice identifié, pas d'autre interpellation. Il va falloir attendre les conclusions de l'enquête pour comprendre les motivations précises de l'assaillant. Cela dit, effectivement, vous l'avez entendu, il y a de nombreux témoignages directs et recoupés, notamment ceux recueillis par notre correspondant à Marseille.
Des éléments qui orientent donc déjà un petit peu l'enquête.
Quelques minutes seulement après l'attaque, la section antiterroriste du parquet de Paris s'en est saisie de cette enquête. enquête. Elle a été ouverte pour assassinat en lien avec une entreprise terroriste et pour tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique. Alors, on attend, vous l'avez dit, une déclaration de Gérard Collomb d'une minute à l'autre. Notez déjà cette réaction il y a quelques minutes sur Twitter de la ministre des Armées, Florence Parly, pour qui le dispositif Sentinelle a fait preuve de son efficacité. Les soldats de Sentinelle, écrit la ministre, continuent de veiller à notre sécurité. Par le même canal, la sénatrice PS des quartiers nord, Samia Ghali, a évoqué le projet de loi antiterroriste actuellement à l'étude qui doit, je cite, nous permettre d'être plus efficaces. Dans le contexte de l'ouverture sous haute protection demain du procès Mera à Paris, la France entre à nouveau dans une séquence sécuritaire.
Merci Benoît Bouscarel pour vos précisions. L'autre grand titre de ce journal, la situation politique tendue en Catalogne. La police espagnole est intervenue en force ce matin pour empêcher la tenue du référendum d'indépendance interdit par Madrid. Des urnes ont été saisies et ces opérations des forces de l'ordre ont entraîné des heurts avec les partisans du scrutin. Il y a eu 91 blessés dans le camp des séparatistes, 11 du côté des forces de l'ordre. Mais le vote se poursuit en ce moment même, tant bien que mal. Bonsoir Annabelle Grelier.
Bonsoir Anne.
Envoyée spéciale en direct de Barcelone, les citoyens peuvent voter jusqu'à 20h en Catalogne et les autorités de la Généralité comptent toujours proclamer les résultats.
Oui Anne, c'est du moins le programme annoncé pour la soirée. Dans le bureau de vote, donc qui n'ont pas été évacués par la police nationale, eh bien on continue de voter. C'est toujours le cas de la petite école de Pau Casals dans le quartier de Gracia. De longues files d'attente se sont formées et les gens attendent des heures pour pouvoir voter. Certains ont amené leurs chaises pliantes, on laisse passer devant les personnes âgées, les gens avec des béquilles. Belle leçon de civisme hein, tout de même que nous offrent les Catalans qui pour certains sont mobilisés depuis 5 heures ce matin et d'autres qui ont dû traverser la ville pour trouver un bureau de vote ouvert car en cas de fermeture par la police de leur bureau de vote, les gens pouvaient voter n'importe où ailleurs, l'exécutif régional disposant de ce qu'ils appellent donc un recensement universel. La prochaine étape maintenant pour les organisateurs du scrutin sera le dépouillement prévu après 20h. Le oui devrait l'emporter car la participation des partisans de l'indépendance devrait être bien plus élevée que celle des opposants. Cette journée de vote est cependant loin d'être terminée. Hein. On craint encore la confiscation des urnes à la clôture du scrutin par la police. Quoi qu'il arrive, un grand rassemblement est prévu ce soir sur la place Catalunya, un grand rassemblement populaire où devrait être proclamée la victoire du oui à l'indépendance.
Merci Annabelle Grelier pour votre compte-rendu en direct de Barcelone. Par ailleurs, un millier de personnes ont manifesté de nouveau à Madrid, capitale espagnole, contre l'indépendance de la région de Catalogne. Alors, quelles conséquences aux violences de ce matin dans les relations entre Madrid et les régions espagnoles ? Pour en parler, nous sommes avec Barbara Loyer. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être en direct dans le journal de 18h. Vous êtes la directrice de l'Institut français de géopolitique à l'Université Paris 8, spécialiste de l'Espagne. Votre réaction d'abord aux heurts de ce matin entre les indépendantistes et les forces de l'ordre. 91 blessés recensés par les services d'urgence.
Je pense qu'il faut déplorer ce qui était prévisible. Je pense que le fait d'avoir absolument voulu faire ce référendum alors que le gouvernement s'y opposait et que une bonne partie du Parlement catalan s'y opposait aussi débouchait de manière plus ou moins prévue sur ce genre d'événement. Et voilà, et en plus comme la police autonome catalane est souvent restée inactive, du coup tout le poids de l'interdiction du référendum est retombé sur la garde civile, ce qui d'un point de vue symbolique fait bien l'affaire des séparatistes catalans qui avaient prévu d'envoyer un maximum d'images sur tous les réseaux sociaux montrant des gens désarmés et en face une police casquée. Donc c'est une opération médiatique et cette opération médiatique, elle a parfaitement réussi. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'il n'y ait pas plus de dérapages parce que la journée n'est pas terminée et parce que certains peuvent avoir intérêt à pousser plus encore dans cette voie-là pour que véritablement tout le monde se retrouve dans l'impossibilité de donner raison à un gouvernement espagnol qui pour l'instant essaye de de faire valoir son autorité ou de faire valoir l'autorité de l'État.
Alors on l'entend, Barbara Loyer, vous êtes assez critique hein, avec les dirigeants indépendantistes. En même temps, pourquoi Madrid n'a pas laissé voter les Catalans aujourd'hui, comme ça a été le cas en 2014 lors de la précédente tentative de référendum ?
Moi, je pense, si vous voulez, que ça serait déjà pas mal si on arrêtait de parler de Madrid et les Catalans. L'Espagne, c'est un État compliqué. Il y a des communautés autonomes, des parlements. Il y a des séparatistes à la fois au Pays Basque et en Catalogne. Une situation assez tendue avec des élections législatives qui ont dû être répétées deux fois parce qu'on trouvait pas de majorité. Donc on est dans une situation extrêmement instable et que par ailleurs, c'est dans la Constitution, il est écrit que c'est à l'État de donner l'autorisation d'organiser un référendum, que ce référendum change complètement la Constitution de l'État espagnol et qu'il semble pas absurde de refuser que l'État espagnol disparaisse de la volonté d'une seule de ses parties. Si vous prenez les négociations au sein du Parti Socialiste, le même associé, on va dire, au Parti Socialiste catalan, le Parti Socialiste refuse qu'il puisse y avoir un référendum dans une seule région d'Espagne qui ne concerne pas l'ensemble de l'Espagne. Si la moitié de la population catalane n'est pas favorable à l'indépendance, en tout cas c'était le cas l'année dernière, maintenant je ne sais pas ce que ça donnerait en cas d'élection anticipée, mais le Parlement catalan reflète pour l'instant le fait que plus de la moitié des gens qui sont allés voter ont voté pas pour des partis qui n'étaient pas indépendantistes. Donc on ne voit pas bien pourquoi il faudrait pourquoi ça serait plus logique de laisser se faire un référendum qui ne correspond pas à la Constitution espagnole, qui ne correspond pas aux résultats des élections à l'intérieur de la Catalogne, et de laisser se déchirer non seulement la Catalogne, parce que là on est dans une situation grave pour la Catalogne et tous les citoyens catalans.
Merci.
Et de risquer qu'il y ait la même demande au Pays Basque, et puis après le Pays Basque,
bien
la
sûr.
Même demande en Galice, même si le Parti populaire est archi majoritaire, et puis...
Nous entendons, excusez-moi, je suis obligée de vous couper, Barbara Loyer, mais on a bien compris votre inquiétude. Je vous remercie pour votre analyse. Vous êtes la directrice de l'Institut français de géopolitique à l'Université Paris 8, spécialiste de l'Espagne. Bonne soirée à vous. Dans le reste de l'actualité, la mort d'Edmond Maire. Il était l'un des dirigeants emblématiques de la CFDT. À la tête du syndicat de 1971 à 1988, il avait développé la ligne du réformisme. Âgé de 86 ans, Edmond Maire est décédé des suites de maladie, annonce sa famille. François Bayrou a également prononcé son discours de clôture de l'université de rentrée du Modem à Guidel dans le Morbihan. François Bayrou qui a évoqué la perspective d'un rassemblement avec l'UDI de Jean-Christophe Lagarde.
Le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, a dit « Nos liens avec LR, c'est fini. C'est derrière nous. » Si vraiment la déclaration du président de l'UDI est fondée, si vraiment il a décidé qu'il ne serait plus des supplétifs, au contraire du choix qu'il a fait pendant des années et des années, si vraiment il a décidé de se mettre en marche, lui aussi, sur la route de l'indépendance, alors il faut que nous en tirions les conclusions. Et moi, je suis tout à fait prêt à examiner toutes les possibilités de rassemblement, sous quelque forme que ce soit, dès l'instant que l'indépendance devient le gage de l'unité. Si cette chance est offerte, alors je promets que nous ne la laisserons pas passer.
Des propos recueillis par Stéphane Robert. La météo de votre lundi matin, 2 octobre. Le ciel sera gris et pluvieux quasiment partout. Seuls les Hauts-de-France, les pointes normandes et bretonnes ainsi que la Corse seront épargnés avec un temps plus lumineux. Il fera au réveil 12 à Lyon, 14 à Strasbourg, 17 à Cherbourg, 19 à Bordeaux et jusqu'à 21 degrés à Marseille. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.